18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis, bonjour, bonjour, partout en France, vous nous écoutez. Et c'est une excellente chose et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Votre émission, votre magazine, c'est parti, 18h, 19h30, justement. Eh bien, au menu, au sommaire de ce qui vous attend, eh bien, le programme, le voici, tiens. D'abord, vous les auditeurs. Au 01 53 48 3000. J'ai vu une image qui m'a assez surpris, choqué. C'est l'image d'un chauffeur de VTC agressé à Lille. Eh bien, on va parler des cams, des caméras. Est-ce qu'il faut rendre les dashcams obligatoires? Justement, c'est une bonne idée ou pas? Eh bien, on en parle. Menaces, tentatives d'enlèvement. Plusieurs femmes ont été victimes de chauffeurs d'Uber, justement, de tentatives d'enlèvement. Vous m'aviez demandé de reconduire le sujet, et bien, c'est reparti. Voilà les deux sujets que je vous propose aujourd'hui. Ensuite, chers amis auditeurs, nous reviendrons sur Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau, l'Europe Écologie Les Verts, le 49.3 qui est officiel, il est actionné. Et puis la motion de censure de la NUPES est tombée. Eh bien, on va en parler avec notre invité, le député européen, Monsieur Mounir Satouri, qui est avec nous dans une poignée de minutes. Ensuite, les quatre sujets qui ont retenu notre attention. La grève d'hier, quelles leçons on en tire? On parlera aussi de la pénurie du carburant. Peut-on revenir, eh bien, à la normale? On parlera aussi du budget du 49.3 qui est saisi désormais, c'est officiel. C'est plus désormais une menace. On parlera de l'Iran qui entre en guerre avec la Russie. Ça y est, après la menace de Washington de sanctionner ceux qui nous fourniraient justement des drones et les missiles, eh bien, voici que l'Iran assume. L'Iran se dit complètement engagé à en fournir davantage à la Russie. On en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs influenceurs qui seront présents sur le plateau, ici même, en direct. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
C'est de l'endurance hein, quand on fait de la radio, hein. C'est de l'endurance, c'est un marathon, véritable marathon. Allez, l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Mounir Satouri, le député européen. Bonjour, monsieur le député européen.
Bonjour, Adil. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. J'ai plaisir d'échanger avec vous à partir du Parlement européen à Strasbourg.
Eh bien, en direct du Parlement européen, c'est une excellente chose. D'abord, Mounir Satouri, vous êtes le député européen, monsieur le député européen, Europe Écologie Les Verts. Comment vous portez, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui lorsqu'on voit, évidemment, Europe Écologie se déchirer, Europe Écologie se scinder, Europe Écologie, cette lutte de pouvoir, cette lutte intestine en interne?
Bon, moi, je ne partage pas votre diagnostic, Adil. Nous sommes en train de faire un congrès où on va avoir un débat démocratique autour de textes d'orientation. Moi, j'ai plutôt le sentiment, vu de l'intérieur, que le climat est apaisé. Il y a effectivement les affaires publiques et la manière dont les médias les ont pris. Il y a toutes les polémiques, il y a des fois des expressions qui, de mon point de vue, pourraient ne pas avoir lieu. Et je ne pense pas qu'on fasse de la politique avec la recherche du buzz. Mais notre famille politique n'est pas si différente des autres. Donc, je ne partage pas forcément tous les adjectifs que vous venez d'utiliser.
Alors, les adjectifs justement que je définis, parlons-en. Si vous voulez bien, monsieur le député européen, vous savez, au cœur de nombreuses polémiques, hein, il y a celle qui continue de faire parler d'elle, vous la connaissez, elle est au sein de votre famille politique, elle s'appelle Sandrine Rousseau, la députée. Donc, elle assume clairement le clivage pour, évidemment, pour elle-même d'ailleurs. Sandrine Rousseau, à quoi joue-t-elle, Mounir Satouri, monsieur le député européen?
Moi, je ne vais pas être en
mesure. Le député européen, pardon.
Je ne vais pas être en mesure de répondre à cette question et présenter comme ça. Vous avez la liberté de vos questions. Moi, je vous invite à inviter Sandrine Rousseau. Je ne ferai jamais ce mode de communication. Je pense que la société française traverse des difficultés importantes, économiques, sociales. Le réchauffement climatique est à son sommet. On a vu ces dégâts très concrets cet été. Et je pense que les écologistes, ils ont une responsabilité de porter des solutions, de participer dans des débats publics à montrer la voie des transformations qu'il doit y avoir. et je ne partage pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce mode de communication. C'est un mode qui appartient à son groupe. Et elle fait le choix de porter un certain nombre de sujets dans la société par cela. Moi, cette méthode ne m'engage pas. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Mmh. Ça ne veut pas dire que les débats de fond que pose Sandrine Rousseau n'existent pas et qu'ils méritent qu'on ait un débat dans la société et qu'on ait un travail. Vous savez, la condition des femmes, des inégalités, les violences faites aux femmes, ce n'est pas un petit sujet dans la société française. Et je pense qu'on on n'en fait pas suffisamment une priorité absolue.
Vous échangez avec parfois dialogue, avec les cadres de, évidemment, d'Europe Écologie Le Vert, Julien Bayou, Sandrine Rousseau.
Non, mais il y a le fond que je partage, et puis il y a la forme que je ne partage pas et que je ne cautionne pas. Non, mais le parti a eu l'occasion de s'exprimer. Il y a une cellule interne qui existe, qui a été mise en place pour justement répondre à des carences et à un manque dans la manière dont les sujets des violences faites aux femmes sont traités, notamment dans les partis politiques. Et tout le monde s'accordera à penser que nous, les élus et les partis politiques, on doit avoir une exemplarité importante sur ce sujet. On veut que la société change. Si on n'est pas exemplaire en interne, on ne serait pas ce dit. Et donc, la cellule est saisie à l'enquête. Elle finira par rendre, quand elle sera allée au bout de ses enquêtes et investigations, ses conclusions. À partir de ces conclusions, le parti, la direction prendront des décisions. Et en fait, tout ça n'a rien à voir avec toutes les polémiques médiatiques qu'on a eues.
Alors, je vous pose la question différemment, monsieur le député européen. Je vous pose la question différemment, monsieur le député européen. Dites-moi, est-ce que, comment vont se traduire ces luttes de pouvoir en interne au sein d'Europe Écologie Les Verts, au sein de votre famille?
Mais c'est pas des luttes de pouvoir. Enfin, moi, j'ai pas envie de l'analyser comme ça. Il y a un temps pour tout. On va avoir un congrès dans les prochaines semaines, d'ailleurs. Les textes d'orientation et qui portent des projets nuancés les uns aux autres, la date limite, c'est demain soir. Et donc, on va avoir 5 semaines de campagne. Et les militantes et les militants devront choisir une ligne majoritaire et une direction. Et on verra dans 5 semaines le choix que nos militantes et militants auront fait.
Monsieur le député,
il n'y en a pas besoin de rajouter dans la presse. Et moi, j'appelle tout le monde à de la raison. Toutes ces polémiques médiatiques ne servent ni le projet écologiste, ni le parti écologiste. Et je ne ferai pas de ceux-là qui attiseront ces différences de manière médiatique.
Il y a aujourd'hui un enjeu, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez vécu aussi les grèves menées dimanche dernier par la NUPES, les grèves menées hier. Quelles leçons tirez-vous de ces grèves et comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment que l'exécutif, le gouvernement, alors qu'il vient de saisir le 49-3, justement, c'est officiel depuis quelques minutes, la première ministre au sein de l'Assemblée, au sein de l'hémicycle, a officialisé, elle a actionné le 49-3. Vous, monsieur le député européen, monsieur Menir Satouri, quelles leçons tirez-vous tout d'abord de ces mouvements de grève, notamment cette pénurie de carburant qui a été reconduite encore pour demain?
Non, mais la pénurie de carburant n'est que la conséquence de l'absence de dialogue social, du refus des directions des entreprises qui font commerce du pétrole de discuter avec les syndicats et de partager les richesses. On a vécu 2 années successives où les bénéfices, notamment chez Total, ont explosé, où le salaire du PDG a augmenté de manière indécente. Et ce n'est pas anormal que les salariés veulent, en période de crise économique importante, de flamber des prix de l'énergie et des matières premières, veuillent que leur salaire soit revalorisé. Donc, n'analysons pas que la conséquence, regardons d'où vient le problème à l'origine. Et puis sur le 43, mais quel gâchis, quelle erreur politique. Mmh. Pour une fois, on a eu une Assemblée nationale où nous n'étions pas bloc contre bloc, où il n'y avait pas la majorité qui décidait de tout, par 3 ou 4 personnes enfermées dans un bureau à l'Élysée, et on n'avait pas une opposition dont le seul rôle était de s'opposer et de dénoncer ce que fait la majorité. Moi, je siège au Parlement européen, aucun groupe politique n'est majoritaire. Il n'y a pas un texte qui est voté sans qu'il soit élaboré dans une logique de débat entre les groupes politiques et dans la recherche du consensus. Et je pense que nous avions une expérience, une opportunité extraordinaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui en France pour qu'on sorte de la
culture
de la confrontation majorité contre opposition pour construire dans le consensus
Madame, dans l'intérêt des Français. Des Madame la Première ministre Elisabeth Borne a déclenché l'article 49.3 de la Constitution et tout de suite la NUPES a réagi, elle a annoncé le dépôt d'une motion de censure.
Ben, c'est la réponse du berger à la bergère et tout ça est regrettable pour notre démocratie et n'est pas à la hauteur des attentes des Français et des Français. Moi je le regrette. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, sans majorité absolue, on aurait pu faire une transition dans les faits des institutions de la Ve République et travailler à faire advenir une représentation plus proche de la réalité de ce que pensent nos concitoyens. Moi, je suis comme écologiste pour la proportionnelle. Et là, en fait, on avait une proportionnelle.
Donc, vous êtes mécontent. J'ai bien compris.
Je suis mécontent de ce 49-3 parce que ce qui raconte de notre capacité à faire ensemble de la politique et à construire des consensus n'est pas bonne. Voilà, l'histoire qui est racontée par ce 49-3, cette défiance pour passer en force, ce n'est pas une bonne chose.
À la sortie de l'hémicycle, il y a quelques minutes, vous savez, certains insoumis, socialistes, écologistes, communistes, tous de la NUPES, critiquent l'action du gouvernement. J'ouvre les guillemets. Voici, monsieur le député européen, ce que disent les quelques députés de la NUPES. Le gouvernement nous a traités comme des paillassons, virgule. C'est une honte pour la démocratie. Je referme les guillemets. Ça a été lancé par André Chassaigne, pardon. Vous rejoignez évidemment ce qui se dit.
Non, mais non, moi, ça ne sera jamais mes mots, Adil. Vous avez compris que mes choix de faire de la politique ne sont pas celles-ci. Mais vous pouvez commenter les expressions des uns comme vous le voulez. Le fait est que le déclenchement du 49-3, c'est regrettable pour notre capacité à trouver le consensus pour décider d'une politique à la hauteur de la crise que traversent nos concitoyens.
Dites-moi, selon vous, est-ce que aujourd'hui l'exécutif est en mesure de proposer des mesures concrètes en direction des Français pour la hausse des salaires, l'inflation, le pouvoir d'achat? La situation est explosive, vous partagez cela?
Ah, je partage cela, je le souhaite, qu'enfin le président de la République, Emmanuel Macron et le gouvernement prennent cette conscience. Et vous savez, si les propositions sont celles que vous venez de décrire, je ne veux pas prendre la décision à la place de mes collègues députés à l'Assemblée nationale, mais je pense que les écologistes seront au rendez-vous pour pouvoir accompagner ces mesures qui sont aujourd'hui une urgence pour les Français et les Français.
Comment va s'organiser Europe Écologie Les Verts dans les jours et les semaines qui arrivent, monsieur le député européen, parce que vous-même, vous êtes dans l'état-major de cette famille, dans les Europe Écologie Les Verts.
Oh, je suis un des responsables de ce parti, même si je ne siège pas à la direction nationale, mais je participe au débat politique interne et j'essaye de faire entendre ma voix. Je vous l'ai dit, on va vivre un processus démocratique. Nos textes d'orientation vont être déposés demain soir. On va avoir 5 semaines de campagne, les militantes et les militants vont voter, une direction avec une nouvelle orientation politique pour tenir compte de l'actualité du moment, des défis qui traversent notre pays, de la situation internationale aussi. Une direction va se mettre en place.
Vous avez suivi évidemment les différentes sorties de déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Il en a commis des maladresses. Est-ce que c'est volontaire aussi de sa part d'aller confronter, de chercher cette violence politique?
J'en sais rien, Adil. Moi, je ne suis pas un intime de Jean-Luc Mélenchon. Je ne participe pas aux discussions qui construisent son récit. Brutaliser le débat politique n'est jamais une bonne chose. Et en même temps, se concentrer de manière forte et médiatique autour des propos de Jean-Luc Mélenchon n'est pas non plus l'essentiel. On vit une situation grave à tous les niveaux, économique, social, écologique, le réchauffement climatique. Et là, on est à quelques semaines de la COP27, avec un enjeu pour l'humanité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, prêtons plus d'énergie, plus d'attention, consacrons plus de temps aux véritables problèmes et pas aux polémiques stériles des uns et des autres.
Et l'enjeu du moment, en ce moment même, vous êtes en direct du Parlement européen. Quel est l'enjeu du moment Mounir Satouri?
Bon, moi, je vais participer dans un quart d'heure à un débat autour de ce qui se passe en Tunisie. Vous savez, la Tunisie, ça avait été le premier pays du monde arabe dont la population s'est révoltée, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il y avait une expérience démocratique intéressante et plein d'observateurs internationaux souhaitaient que ce modèle réussisse pour qu'il devienne un exemple, pour qu'il y ait une transition démocratique apaisée qui apporte sérénité, qui apporte tranquillité, démocratie, liberté d'expression au peuple arabe. Et malheureusement, on a vu ces derniers mois la situation se dégrader. Le président actuel, Kais Saied, s'accorde tous les pouvoirs. Il a attaqué la représentation nationale à l'Assemblée, il a attaqué la justice. Aujourd'hui, les maires sont menacés, la société civile commence à avoir peur de s'exprimer. Donc on va débattre de la situation de la Tunisie et comment l'Union européenne peut être à la hauteur de la crise économique, sociale et démocratique que traverse la Tunisie et comment on peut...
Vous allez vous y rendre, vous, avec une délégation en Tunisie ?
Moi, j'y étais il y a trois semaines.
Trois semaines ? Et si une... Qu'est-ce que vous avez vécu ?
J'ai ressenti l'effroi, la crainte, l'importance de la crise économique et l'inquiétude des acteurs, et notamment des ONG de la société civile, sur ce qui se passe en Tunisie. Et quand j'y étais il y a trois semaines, les associations acceptaient qu'on les cite, notamment au moment où on fait nos comptes rendus de nos échanges. Hier, je les ai eus au téléphone et à travers une réunion Zoom. Ils ne veulent plus que leur nom soit cité, ils ont peur, y compris pour leur personne. Donc la situation est grave et il faut que l'Union européenne trouve le moyen d'aider la Tunisie, notamment en débloquant des fonds pour que faire face à la crise économique et au prix des matières premières et de l'énergie, mais avec une fermeté importante dans le dialogue avec le régime, parce qu'on n'a pas le droit d'abandonner l'envie de démocratie des Tunisiens et des Tunisiens. Et ce débat, on va l'avoir dans 10 minutes, donc je ne vais pas tarder à aller dans l'hémicycle.
Allez-y, bon débat. Merci d'avoir été avec nous dans Les Informés, monsieur le député européen Mounir Satouri. Merci infiniment.
Merci d'avoir invité, Adil, et à très bientôt.
À très bientôt, monsieur le député européen Mounir Satouri, qui était avec nous en direct du Parlement européen, où en ce moment même, on vient d'avoir des nouvelles concernant donc la situation en Tunisie. Merci, Mounir Satouri. Merci, monsieur le député européen. On marque une pause et je vous attends au standard au 0153483000 pour parler des chauffeurs Uber, notamment cette vidéo qui fait scandale. Une image qui circule, une vidéo... Un chauffeur VTC agressé à Lille, une solution. Est-ce qu'il faut rendre, est-ce qu'il faut revenir avec des caméras embarquées? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h24, on va pas en revenir sur cet événement. Justement, j'ai une question à vous poser, vous qui prenez régulièrement le Uber. On est beaucoup, hein, beaucoup d'entre vous prennent Uber. Alors il y a deux éléments, deux séquences, moi, qui m'ont frappé aujourd'hui. La première, c'est ce chauffeur à Lille agressé de façon violente, une agression dans son véhicule, évidemment, avec deux personnes à l'arrière. Et cette scène a été filmée avec une caméra embarquée. Alors, bon, on va essayer d'avoir M. Brahim Ben Ali, qui est le secrétaire général du syndicat, qui est intervenu hier, justement sur cette question-là. Scène violente. Donc, Uber devient de plus en plus, évidemment, on vit de plus en plus de violence. Et puis aussi, vous le savez, on en a parlé hier, c'est ces menaces, ces tentatives d'enlèvement. Plusieurs jeunes femmes ont été victimes, ont fait l'objet de tentatives d'enlèvement par des chauffeurs Uber. On a eu un point d'éclairage hier par le secrétaire général de l'intersyndicale de VTC. Venez témoigner, nous commenter ces deux sujets. Est-ce que, je vous pose la question, pour améliorer les conditions de sécurité dans les deux sens, vous qui êtes client et le chauffeur, est-ce qu'il ne faut pas désormais mettre des caméras ? Caméras obligatoires. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas les rendre obligatoires, ces caméras ? C'est une question toute simple, à la fois pour votre sécurité à vous et pour la sécurité du chauffeur. Voilà. Dans quelques minutes, on aura le secrétaire général de l'intersyndicale de VTC, justement, qui viendra nous expliquer juste s'il faut, oui ou non, des caméras. Alors, je vous attends. Le standard, oui, tout de suite, s'il est d'accord. Le standard est ouvert, 01 53 48 3000. Je vous attends, le standard est ouvert. Et en attendant vos appels, juste quelques minutes avec monsieur Brahimi Ben Ali. Bonjour monsieur Brahimi, monsieur Brahim Ben Ali. Ah, c'est dans 3 minutes. 3 minutes justement, on me dit. Alors j'attends vos appels, 01 53 48 3000. Pensez-vous qu'il faut installer des caméras dans les chauffeurs Uber, dans les voitures chauffeurs Uber? Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il faut cet équipement? Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Parce qu'on a cette série de jeunes femmes qui ont été victimes d'enlèvement. Et puis ce chauffeur malheureux de VTC, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, il en appelait, il a accéléré le pauvre, il a ouvert sa fenêtre, il disait « Appelez la police, appelez la police !» Il se sentait menacé. C'est terrible. Bon, tiens, je vais accueillir Samir. Samir, bonjour. Samir.
Allô, oui, allô, bonjour.
Bonjour, mon cher Samir.
Ça va, vous allez bien?
Très bien, vous nous appelez de quelle ville?
Ça va. De Paris.
De Paris, vous êtes parisien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Samir?
Moi, j'étais VTC, mais je ne le suis plus.
Alors, parlons-en justement. Est-ce que vous pensez, avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez vu la vidéo de ce chauffeur avec
ouais,
VTC, vidéo, le pauvre?
J'ai vu la vidéo, heureusement que ça a été filmé. Hein,
oui, heureusement.
Parce que c'est des choses qui arrivent. Bah, souvent. Et une chose qui est importante, c'est que c'est souvent les VTC qui sont pointés de doigts. On pense que c'est eux les agresseurs ou les enleveurs, mais c'est les clients. Il y a des clients aussi qui respectent pas le métier.
Ouais. Dans les deux sens. Justement, ouais, je posais une question. Est-ce qu'il ne faut pas rendre obligatoire justement les caméras dans les voitures VTC?
Bah oui, c'est une très bonne idée, hein, vraiment. Il faut des caméras pour protéger tout le monde, pour protéger les chauffeurs et les clients.
Et les clients. Bah, au moins, ouais, c'est clair, c'est, Samir.
Il y a des collègues qui sont investis, qui ont mis des caméras.
Parce qu'il y a de plus en plus d'agressions, il faut le dire clairement, disons-le clairement. Oui.
Parce que ça aussi, c'est un peu, moi je dis, c'est un peu la faute des plateformes. Parce qu'avant, ils contrôlaient les clients et tout. Maintenant, bah, n'importe qui peut être client Uber. Nous, les chauffeurs, ils nous contrôlent, ils font tas de papiers, ils font plein de choses, éducatives, plein de choses, mais les clients, non, ils se font juste un nom, prénom et carte bancaire. Et c'est...
Ouais.
Vous savez, donc, peu importe, n'importe qui peut être client et faire des commandes chez n'importe quelle application, plateforme. Mais nous, au contraire, nous, on se fait contrôler, chaque fois, ils font les documents à jour, il faut déposer le... de choses à jour, soit les assurances, soit les papiers, soit les permis, soit plein de choses.
Bon. Merci Samir.
De rien.
Merci et restez fidèles. Merci, bon courage. Bonne journée aussi. Je vais accueillir monsieur Brahim. Est-ce qu'il est avec nous? Sinon, je vais accueillir le Quad 9 et on les mettra en attente. En attendant le Quad 9, je vais accueillir Fetia. Bonjour Fetia.
Bonjour.
Vous nous appelez de quelle ville, Fetia?
Je vous appelle dans 77.
Quelle ville de 77? Melun. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Fetia?
Je suis conductrice de bus.
Eh bien, bien. Justement, les conducteurs et les conductrices de bus, eux, ont des caméras. Est-ce qu'il ne faut pas équiper les chauffeurs VTC de caméras?
Ah oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut absolument, impérativement, les mettre obligatoires dans les véhicules. Non seulement ce sera une sécurité pour le chauffeur et pour les clients aussi. Et je suis tout à fait d'accord.
Donc, pour garantir la sécurité de chacun.
Exactement.
Vous avez déjà été vous-même agressé en insécurité quand vous avez pris un VTC?
Non, jusqu'à l'alhamdoulilah, je n'ai pas eu de soucis.
Oui.
Mais par contre, je ne vous cache pas que quand j'ai des services du soir, ça me fait flipper, quoi.
Comme les auditeurs d'hier qui disaient ça hier.
Voilà. Ouais. Ah bah voilà, on se retrouve dans un bus avec une ou deux personnes au fond du bus et tu sais même pas ce qu'il fait, tu sais, on s'attend à tout, quoi.
Ouais.
Les services tardifs, là, c'est très... ça me fait flipper, quoi.
Bon. Merci Fatia d'être intervenue.
Je vous en prie, bah, je vous souhaite une excellente soirée et au revoir.
Bon courage à vous et prudence à vous. Tiens, merci, monsieur Brahim, monsieur Brahim Ben Ali est avec nous avant d'accueillir le Quad 9 avec nos docteurs Majid Seoussine. Brahim Ben Ali, bonjour.
Bonjour, merci de me permettre de pouvoir intervenir et d'échanger avec vous.
Merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous n'étiez même pas informé. Et c'est vrai que cette histoire de chauffeur VTC agressé à Lille m'a contraint de vous contacter. Vous êtes le secrétaire général du syndicat INV. Donc justement, monsieur le secrétaire général, quand vous voyez cette agression à Lille, comment réagissez-vous d'abord, ce chauffeur, un collègue à vous d'ailleurs?
Eh bien, écoutez,
les images sont violentes.
C'est moi,
hein.
Ben, c'est moi qui ai publié ces vidéos. Si oui. Je ne l'avais pas fait, je pense que personne n'aurait été sensible à ça. Ce n'est pas la première fois. J'ai une consoeur qui a été agressée, même chose. Voilà, on l'a commandée. Elle est arrivée donc, dans un endroit un peu paumé et on l'a braquée à l'arme lourde. Donc il y a de plus en plus d'agressions envers les chauffeurs. Les chauffeurs sont maltraités. On les insulte. On leur manque de respect. Limite, j'ai l'impression qu'en fait, on les considère même pas comme des travailleurs. C'est-à-dire que finalement, c'est des esclaves. Il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Et je rappelle encore que j'accompagne des chauffeurs qui se font accuser à tort d'agression sexuelle, agression physique, agression verbale, c'est plus possible. Et du coup, ben, comment ils font pour prouver leur innocence quand ils arrivent? Donc, dans un commissariat, on les met en garde à vue, Et on doit attendre justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est plus possible. De l'autre côté, les clients aussi subissent donc cette vague d'insécurité puisqu'on a trop banalisé l'insécurité. Là, ça fait des années moi que sensibilise donc le gouvernement. Il faut savoir que ces clients-là aujourd'hui sont confrontés à une vague de faux chauffeurs. C'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas exercer la profession, qui vont s'inscrire donc avec des documents frauduleux grâce, encore une fois, avec la complicité des capacitaires. C'est-à-dire, vous savez, j'ai donc la possibilité de créer une société et du coup, j'ai les moyens financiers. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Je vais leur dire, voilà, je t'ai donné une berline, roule. Ah, t'as pas la carte professionnelle ? Pas de souci, je vais t'en faire une. Et du coup, avec la complicité des plateformes qui ne regardent pas du tout le profil et qui ne filtrent pas, on arrive à ce constat-là. On se retrouve avec des chauffeurs qui ont des antécédents très lourds pour certains. Ne faisons pas des amalgames, parce qu'il y a des chauffeurs formidables qui travaillent, qui font tout pour gagner donc un minimum. Et encore aujourd'hui, quand je vous dis un minimum, c'est parce que les plateformes, c'est de la maltraitance tarifaire. Voyez, franchement, le terme est fort, mais c'est vraiment de la maltraitance tarifaire parce que chaque jour, la tarification est revue. Bon. Donc là, il y a un vrai problème.
Selon vous, il faut alerter le gouvernement.
Je l'ai déjà alerté, moi.
Vous l'avez déjà alerté. Vous avez eu un retour ?
J'ai la chance. Oui, écoutez, j'ai la chance d'avoir de très bons interlocuteurs. Après, vous savez, dans ce gouvernement, vous avez des bons et des mauvais interlocuteurs. Mais j'ai quand même eu la chance d'en avoir un qui est sensible à ces questions-là et qui m'a promis une réunion interministérielle, donc finance, transport, et qui est sensible à mes propositions.
Ma dernière question avant de retrouver le quoi de neuf, parce qu'on s'est mis un peu en retard, mais je vous en remercie infiniment, monsieur le secrétaire général. Dites-moi, est-ce qu'il faut rendre obligatoire les caméras dans les véhicules chauffeurs Uber ?
Alors, premièrement, il faut éviter les dérives. Je rappelle encore une fois qu'elles sont déjà installées donc dans les bus. Donc, vous savez, la RATP a équipé ce dispositif au sein donc de leur bus. Il faut savoir que la CNIL derrière donc demande à ce que les fichiers soient nettoyés toutes les 24 à 48 heures. Après, il faut pas qu'on ait une connexion entre les plateformes, qu'elles puissent récupérer les données et j'en passe. Je rappelle que la dashcam, d'accord, donc elle appartient au chauffeur à l'intérieur de l'habitacle et si jamais, par exemple, c'est son fonds de commerce, hein, si jamais la justice réclame les vidéos parce qu'il y a une plainte ou alors que le chauffeur a besoin de ces vidéos pour prouver son innocence, là je suis d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Et pour terminer le dernier fléau, on va mettre fin aussi à cette vague de chauffeurs. Parce que vous savez, quand on met une dashcam, ça dissuade ces personnes-là. Il y en a beaucoup, vous savez, qui ne connaissent pas notre langue, qui ne connaissent pas, vous savez, comment on fonctionne. Quand ils voient une caméra en face d'eux, ça les dissuade tout de suite. Ah non, moi, je monte pas dans le véhicule. Même si c'est des faux documents, on me dit, je travaille. Ils ont peur, vous voyez ? Parce que l'anonymat n'est plus là.
Je comprends. Qu'est-ce qu'il advient concernant le chauffeur victime de cette agression et les deux clients ?
Alors, bonne nouvelle. Déjà, la première, donc, la personne a été interpellée ce matin. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Anthony donc a fait des prises de sang, des tests et tout ça. Finalement, il n'a rien parce qu'on l'avait pulvérisé donc un produit. Et là, il se reconstruit psychologiquement. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt à reprendre le volant. Voilà.
Eh bien, écoutez, effectivement, il a besoin de soutien, j'imagine, et que vous êtes là pour l'encourager.
Et je vais juste terminer sur un truc, une info que je vais rendre publique tout à l'heure. La plateforme Bolt a été alertée 5 fois, 5 agressions, et ce sont les mêmes clients. Ils n'ont pas été déconnectés de la plateforme et ont opéré au sein de la plateforme Uber pendant plusieurs mois. Ils ont dépouillé des chauffeurs. Et ce qui est scandaleux, parce que Bolt n'a jamais remboursé ni les courses, ni accompagné ces chauffeurs-là. Voilà.
Eh bien, info en exclusivité dans les informés sur BFM. Merci infiniment. Effectivement, elle est sortie en direct maintenant dans les informés sur BFM. Merci, monsieur le secrétaire général du syndicat INV. Monsieur Brahim Ben Ali, à très vite et merci pour ces précieuses informations. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous avec le quoi de neuf et beaucoup de retard et je m'en excuse d'entrer.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Manfredé. 18h41, merci d'être avec nous. Si vous venez de nos shows, sachez-le, c'est les informés. Je vous attends au 01-53-48-3000 avant de retrouver tout de suite, vous le savez, qui, quoi, quoi, le face à face. Eh bien, tout de suite, le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Est-ce que j'ai pris du retard? Et je m'en excuse auprès de notre docteur, le professeur international, que j'ai nommé le docteur Majid Sioussine. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Écoutez, pas si mal. Hein.
Je vous prie de m'excuser, je devais vous prendre à 18h30, on a eu un retard.
Pas grave,
avec justement l'actualité qui a pris le pas. Exactement.
Trois morts de plus à cause de vous.
Trois morts de plus. Non, je ne veux pas avoir ça dans la conscience. Non, 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 surtout pas. Ne me refilez pas le bébé. Je vous écoute. Vous avez décidé de consacrer votre quoi de neuf, votre édito, le billet d'humeur, au 49.3. À vous, évidemment, la parole.
Bah écoutez, mon cher Adil, la vie est chère, c'est difficile. Oui. Mais je pense que les Français ne sont pas convaincus que l'on peut y changer grand-chose. Preuve en est l'échec des manifestations pour le pouvoir d'achat, ou alors peut-être que les Français étaient dans les files de voitures attendant le précieux liquide qui nous permet de polluer l'atmosphère. En tout cas, comme beaucoup d'auditeurs de Beurre FM, nous avons tous vu les images vous concernant dans cette manifestation, où tous vous ont entendu scander cet étrange slogan « Non, non à l'inflation, moi je bosse pour des costards Hugo Boss ».
J'aime bien Thierry Paul Valette, qui est un ancien leader de Gilets jaunes, me regarde avec des yeux, des grands yeux. Ne le croyez pas, hein, c'est faux. Hein.
Mais non,
attendez,
bah oui,
vous ouvrez le micro. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire Thierry Paul Valette? Qu'est-ce qui se passe?
Non, non, parce que ça s'appelle une fake news, et puis c'est vrai que j'étais interloqué, et en même temps j'ai les
yeux... Interloqué, mais les auditeurs, ils peuvent croire.
Oui, mais en même temps, j'ai les yeux rivés sur l'écran, on jouait le 49.3, donc entre les
voilà,
yeux, j'ai failli croire que...
Non, il fait des blagounettes, ce qu'on voilà, appelle, des blagounettes sur moi. Allez-y, docteur.
Eh bien oui, mon cher Adil, chacun ses motivations. Hein. Quand on regardait hier les questions au Parlement, on s'est dit qu'il fallait être sacrément motivé pour chercher à faire son beurre sur la mort horrible d'une petite fille de 12 ans assassinée par une Algérienne. Certes sans papier, mais probablement psychiatriquement très malade, comme le laisse percevoir la mécanique criminelle. Éric Pouget, député LR, Bruno Retailleau et naturellement Marine Le Pen ne se sont pas honorés en lançant la course à la récupération. Je leur ferai d'ailleurs remarquer que Dutroux, Fourniret, Landru étaient de purs produits du terroir.
Exactement.
Ou peut-être faut-il entendre que la préférence nationale s'étend aussi aux criminels. Tout ceci nous éloigne de la bonne nouvelle de la semaine. Vous espérez, Adil, que je vais me réjouir du ballon d'or de Benzema?
C'est ça, eh bien, je pensais.
Eh bien non, je m'en fous des footballeurs, comme de l'enterrement de la reine d'Angleterre. La bonne nouvelle de la semaine...
Moi, je suis un fan de Benzema, vous savez.
Ça, je sais bien, je sais bien. La bonne... Il aime les costards Hugo Boss comme vous, d'ailleurs. La bonne... Ne me provoquez pas. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que l'on ressort le 49-3. Il nous avait manqué cet argument absolu. Celui qui se fait tenir croire l'opposition la plus motivée, les rageux du débat parlementaire aux dents les plus acérées. Le budget va être adopté grâce à lui. Mais imaginez à dire une seule seconde que nous aussi, nous puissions avoir accès à un 49-3 quand nous en avons besoin. Une dispute avec Madame Farkan. Tiens, prends un coup de 49-3 dans les dents et tais-toi.
Exact.
Un banquier un peu rétif pour un prêt immobilier. Attention, je vais vous sortir mon 49-3. Imaginez-vous, à l'école, quand vous étiez petit, trois redoublements en CM2, vous sortez le 49-3 pour arracher le passage en sixième. Et moi, je vous parle pas du 49-3 que me plantait dans le derrière mon papa quand j'ai ramené mon bulletin.
Il est bon, hein. Il est en forme ce soir, hein. Il est en forme.
Eh bien, moi, en tout cas, voyez-vous, Adil, je voudrais qu'on invente un 49-3 mondial. Pour faire une loi interdisant les guerres, la famine, la prédation écologique, etc., etc. Mais là, je crois que je rêve sans doute.
Ah, vous avez bien raison. Bravo. Franchement, bravo pour cet excellent billet d'humeur. Quelle plume.
Service, mon cher.
Je vous le dis toujours, hein, écrivez un livre.
Oui, oui, je vais écrire. Un livre de recettes de cuisine.
Allez, portez-vous bien, mon cher. Recettes de cuisine, vous méritez plus que ça. Merci, docteur Majid. C'est aussi le docteur, donc chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Merci, docteur. À mercredi prochain. Othman, tiens, on va récupérer Othman, qui nous appelle donc de je ne sais pas d'où. Othman, bonjour, bonsoir, Othman. Othman.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, bonsoir, mon cher Othman. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Et je suis transporteur.
Oui.
Voilà, je développe une entreprise de déménagement.
Et vous nous appelez de quelle ville?
J'appelle de Charenton-le-Pont.
Charenton-le-Pont. On vous écoute.
Val-de-Marne.
On vous écoute.
En fait, moi, pour activité, donc voilà, je suis entrepreneur et en même temps, je suis vice-président d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'appelle CVS, sur le 20e arrondissement. Je fais ça depuis une dizaine d'années, donc avec Vanessa, on discute souvent, votre collègue de cette association.
Oui.
Et je voulais dire que la situation des Uber, c'est que nous, dans notre association, on constate souvent qu'on a des femmes qui viennent des situations affreuses, qui dépose plainte contre des chauffeurs VTC pour des attouchements et autres. Bon, ce que j'ai vu des vidéos, c'est vrai que c'est intolérable. Mais je dis qu'il y a une solution. La solution, c'est qu'en plus, si vous voulez mettre des véhicules comme ce qui se fait aux États-Unis, comme ce qui se fait en Angleterre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas comment un véhicule VTC ou un taxi peut être utilisé en même temps des choses personnelles et aussi en même temps en tant que taxi. Dans les pays anglo-saxons, le taxi, c'est un taxi, c'est-à-dire qu'il a une séparation au milieu. Vous montez, il a une couleur spéciale. Et en même temps, on n'a pas ce souci-là.
Je pense. Est-ce qu'il faut équiper les véhicules Uber de caméras?
Ben, au-delà de ça, il faut les équiper de caméras et mettre aussi des séparations. Il existe les séparations entre, vous savez, la cabine.
Oui, la fameuse cabine, exactement. Comme en Angleterre. Ou à New York, d'ailleurs, aux États-Unis.
Voilà.
Aux États-Unis, ça existe depuis même les années 90, hein, 85.
Si c'est un tollé quand on dit ça au chauffeur, ah non, mais mon véhicule, parce qu'en fait, le véhicule, il l'utilise pour le côté personnel et pour le côté travail. Ouais. Et à un moment donné, il faut choisir. Je veux dire, à un moment donné, quand on vous dit qu'un véhicule
est le
timbre jaune ou en rouge, voilà, c'est pour le travail, c'est pour le travail. Maintenant, ce qui s'est passé pour ce pauvre chauffeur, franchement, moi, je condamne totalement. Autant que.
Non, on a vu les images, moi, j'ai été choqué, moi.
Pour les femmes. Surtout que là, on va parler.
De la même façon, les femmes qui sont tentatives de viol, on est aussi choquées.
Oui, parce qu'on en a dans l'association, on a des hommes qui viennent nous voir, pour le coup c'est plus rare que les femmes, mais quand ça arrive, pour le principe d'égalité femme, il faut que le traitement soit le même. Et j'appelle de tous mes voeux que ces femmes-là soient condamnées pour l'acte qu'elles ont fait, parce que c'est pas normal que ce pauvre chauffeur soit agrippé de cette manière, et certainement, je le dis, moi je travaille avec une dame qui est juriste, qui est notre présidente, Madame Touria, et qui le dit toujours, qui fait toujours des enquêtes, parce que pour elle, il ne faut pas voir les violences comme une mode, il faut surtout voir les vraies violences. Et là, on a la preuve, c'est-à-dire ces femmes-là, elles ont certainement joué sur leur côté un peu féminin pour dire, voilà, bah, il ne pourra rien faire. Heureusement qu'il avait cette caméra.
Exact. Heureusement qu'il avait cette caméra et qu'il l'a un peu sauvé, effectivement. Merci, Othmane. On est très en retard, Othmane. Merci infiniment d'être intervenu.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous.
Merci également. Prenez soin de vous. Le face-à-face avec beaucoup de retard. On y va, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Face avec le retour ici sur le plateau de Thierry Paul Valette, le leader des Gilets jaunes. Bonjour mon cher Thierry.
Bonsoir Adil, merci pour l'invitation.
Plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau.
Ça faisait un petit moment en effet.
On vous avait eu par téléphone.
Oui, c'est vrai, il y a quelques temps.
L'indéboulonnable. Il y en a ici, vous savez quoi, ils ont leurs habitudes, je vous jure. Il y a Maître David Libeskind, le vendredi. Il y a Gamal Abina. Il y a qui encore? Il y en a un autre aussi, il y en a quelques... comment il s'appelle? Emmanuel Dupuy aussi. Oui, ils ont leurs petites habitudes. Gamal Abina, quand il vient, il prend le même siège, il est sur ma droite, il a le même micro, il pose son portable toujours sur le côté. Il est là. Et il le fait toujours bouger d'une façon, d'une manière. Et ils ont des tocs, nos débatteurs. Je kiffe. Qui aime bien, châtie bien.
Ah bah tout à fait.
Comment ça va, mon cher Gamal Abina?
Depuis tant, on se connaît depuis 10 ans.
Oui, c'est ça. J'ai remarqué même un truc. Quand vous commencez à vous énerver, vous prenez votre portable, vous le déplacez comme ça, d'un moment comme ça là. Tu sais. Mais vraiment, hein, on comprend bien. Bon, enfin bref. C'est comme David, le maître Libeskind. Oui, il est aussi pareil. J'ai tenté de le faire bouger, de le faire basculer d'un siège à l'autre. Il voulait pas. J'ai dit non, je reste là, sinon ça va me déstabiliser.
Ouais,
ils sont marrants. Bon, les messieurs, tout de suite, le 49.3, vous avez suivi. Eh bien, ça y est, c'est officiel. Elisabeth Borne, la première ministre, a dégainé. Elle a déclenché le 49.3 tout à l'heure, il y a quelques minutes, en plein hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et la NUPES, elle a annoncé la motion de censure. Gamal Abina. Réaction.
Ma réaction, j'ai envie de sortir le 357 Magnum. 49-3, c'est quoi? C'est un déni de démocratie. On n'a pas la majorité.
Mais beaucoup l'ont fait.
Ils l'ont fait parce qu'ils ne peuvent pas réunir suffisamment de votants en leur faveur pour avoir la majorité pour faire passer un texte important. C'est quoi le texte en question? Alors, le 49-3, c'est l'article 49 alinéa 3 qui donne plein pouvoir pour passer en force sur des décisions stratégiques.
Des amendements.
Non, au-delà des amendements. Les amendements, c'est juste pour ralentir. Dans les faits, ça va passer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une loi de finances qui est importante dans la mesure où on est en période de crise, qui va faire, les arbitrages très lourds qui vont coûter. On le sait déjà. Alors, le pays est surendetté, on a, je crois, plus de 100% de dette. Bref, c'est dire un peu le niveau catastrophique. Et aujourd'hui, quand on passe en force, c'est parce qu'on se dit, c'est un pari que fait Macron, qu'il lui faut les pleins pouvoirs pour pouvoir gérer le pays. Indépendamment de son opposition. Donc c'est la question qui se pose. On sort du manifestation.
Je l'avais dit, ça, ce que vous dites là, je l'ai
tout
dit.
Tout à fait, voilà. Absolument. Donc là, aujourd'hui, on est dans une période de tension réelle, hein, qu'on commence à voir monter. La dernière manifestation est un échec, indiscutablement, mais elle progresse. C'est-à-dire que la colère commence à monter. Et à partir de là, s'il y a convergence des luttes, c'est ce que la gauche voudrait, faire un nouveau mouvement à la Blum, à ce moment-là, M. Macron pourra être en difficulté. Lui, il espère faire un pari fort en passant en force et en essayant de réformer de force. Le problème, c'est que les Français n'aiment pas la réforme de force et ça ne passera pas. Donc je pense que le 49-3 est un aveu de faiblesse, ce n'est pas un aveu de puissance.
Thierry Paul Valette, qu'est-ce que vous partagez évidemment comme sentiment ?
Bah, c'est un triste sentiment, un sentiment funeste finalement, parce que ça montre l'échec d'une politique, ça montre aussi un président qui n'a pas écouté la crise qu'il y a eu pendant le mouvement des Gilets jaunes, et puis passer en force dans un contexte où il y a une crise quand même sociale qui est importante. Malheureusement, c'est démocratique, c'est constitutionnel.
Oui, c'est constitutionnel.
Mais d'un point de vue moral et d'un point de vue de l'écoute de la citoyenneté, ce n'est pas la réponse qu'il aurait fallu apporter. Sur
avait-il le choix ? C'est ça la question. Est-ce qu'il avait le choix, chers amis, messieurs ? Thierry Paul Valette et Gamal Abina. Mais oui, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Gamal Abina. Vous avez dit Emmanuel Macron avait besoin de ça justement pour pouvoir passer ses amendements et ses projets.
Alors là, mais il ne laisse pas le choix. C'est ça le problème. Voilà, il ne laisse pas le choix. Et Madame Banks.
Et le débat, il y a un débat. Pourquoi vous dites qu'il ne lui laisse pas le choix ? Il y a un débat.
Ça a été annoncé. Vous allez vous discuter entre vous, mettez-vous d'accord, et si vous ne trouvez pas un accord qui soit bien évidemment en accord avec le gouvernement, on appliquera le 49-3. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui va être fait aussi pour les retraites. Maintenant, par contre, là où je ne suis pas réellement d'accord, c'est dire que
avec Gamal Abina.
Voilà. La manifestation était un échec. En quoi elle est un échec ? Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une réussite formidable. Ce n'était pas non plus l'enjeu d'une mobilisation sur une journée. Elle doit s'inscrire dans la durée. Elle doit s'inscrire sur l'automne. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont en ligne de compte.
Je peux répondre à ça ?
Bien sûr, ça va au-delà de la grève des raffineries chez Total. Ça concerne l'ensemble des salariés du secteur privé, du secteur public. Ça concerne les indépendants. Et puis, c'est aussi une réponse à la société actuelle. Et on l'a vu tout à l'heure avec la problématique des agressions avec le chauffeur Uber. Il y a une radicalisation de la société. La radicalisation de la société, elle est puissante. Elle est présente. Elle est présente dans le discours politique. Elle est présente dans le quotidien. Prendre Uber, un chauffeur, c'est comme prendre un taxi. C'est dans le quotidien. Elle est présente d'un point de vue économique aussi. Cette violence, elle est omniprésente et elle est partout. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui décide. Et c'est on refait les mêmes bêtises finalement qu'on a fait pendant 5 ans.
Je voudrais répondre à 3 points.
Gamal Abina.
Alors, la question de la démocratie. Non, ça n'est pas démocratique. C'est constitutionnel, c'est vrai. Mais ça n'est pas démocratique. C'est une démocratie d'hyper-présidentialité qui prend tous les pouvoirs. Donc en termes démocratiques, dans le sens strict sensu,
là nous sommes d'accord.
Le pouvoir au peuple, non, il n'existe pas. C'est le pouvoir aux dirigeants. Donc en termes constitutionnels, oui. En termes démocratiques, non. Là c'est juste pour la petite nuance parce que
oui, mais ça nous sommes d'accord. Il faut changer la constitution exactement la République.
C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon.
Complètement.
C'est une constitution de guerre qui a été mise en place par un général, pas oublié. Bref. Deuxième chose. Alors sur la question de l'échec, oui, c'est un échec dans la mesure où ils sont sur une véritable lame de fond sociale qui est en train de balayer la France, et ils ont mobilisé qu'on estime 60 000 personnes à peu près, c'est la moitié des chiffres annoncés des deux côtés. J'étais étonné de la faible mobilisation, sachant la qualité du mot d'ordre. C'est quand même contre la vie chère, et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, que ce soit de gauche ou de droite, les gens ne veulent pas être impactés, et je trouve que la mobilisation était faiblarde, parce que malheureusement, ils n'ont pas su faire la cohésion sociale de toutes les luttes sociales. C'est une première étape, là, je suis d'accord.
Oui, mais elle n'est pas citoyenne, c'est aussi avant tout les syndicats, et ça a été les partis politiques
la semaine précédente. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné.
Voilà.
Mais là où je suis d'accord, c'est une première étape. Après, le porteur de cette lutte est aujourd'hui très structuré, je parle de Mélenchon, j'ai aucune sympathie pour le personnage, mais on peut lui reconnaître cette qualité. Il a su fédérer autour de lui d'un message fort. Il a su en même temps être rigoureux et fort sur ses positions, et en même temps passer le message avec un peu plus d'intelligence que la colère qu'il avait à l'époque qui l'habitait. L'autre aspect par rapport à la violence de la société, j'ai envie de dire simplement, c'est que les sociétés, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est pas nouveau. Là, aujourd'hui, on met la focale sur des épiphénomènes qu'on va faire monter en boucle parce qu'on a besoin de spectacle. C'est pour nous détourner des vraies problématiques sociales, on peut en parler. Mais les sociétés, quand elles sont en crise économique, les années 20, les années 30, il suffisait d'aller en Allemagne, c'était un cauchemar. Et en France, quand il y a une dépression, c'est un cauchemar. Pourquoi ? Parce que quand il y a paupérisation, mécaniquement, il y a montée de la criminalité. C'est normal. On connaît ça dans le monde entier, tout le temps, en toute époque. C'est parce qu'aujourd'hui, on le voit plus.
D'accord. Le sentiment d'insécurité n'est pas qu'un sentiment, n'est pas lié qu'à une crise économique. On voit bien que sur ces 20-30 dernières années, il y a une montée des extrémismes. C'est pas lié qu'à la crise économique. Et on voit bien que dès qu'il y a une forte mentalité des extrémismes, il y a la violence qui va avec, la radicalisation dans la société.
C'est une réalité. Montée des extrémismes voilà. Avec la pauvreté.
Là, on parle d'installer des caméras dans les voitures Uber. Bien évidemment, il faut en installer. En Russie, ils ont tous des caméras. C'est démocratique. Ça me rappelle d'ailleurs le débat quand il fallait installer les premières caméras, le Valois-Péret.
Pourquoi vous nous parlez tout de suite de la Russie ?
Ils ont appelé à pied des
gens. Pourquoi la Russie ?
Non, parce qu'en Russie, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on voit les accidents de la route parce que tous ont des caméras embarquées dans les véhicules.
Après, on peut parler de la Russie aussi. On a
ils le font en Russie et c'est vrai qu'en général, ils ne le font pas en Angleterre, ils ne le font pas en France et il faudrait le faire. Exactement.
Ça s'appelle des dashcams. Hein, voilà, c'est comme ça. Dashcams,
voilà, autant pour moi.
J'allais dire par rapport à ça, c'est que la violence sociale. Vous venez de le dire à l'instant.
Aussi.
Elle est concomitante avec la montée des extrêmes, extrême droite et extrême gauche. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a observé plusieurs fois dans l'histoire. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on la voit, c'est tout. On le voit mieux. Par exemple, l'affaire, bon, on va peut-être en parler, de cette pauvre jeune fille de 12 ans qui était massacrée par une tarée. La réalité, c'est quoi ? C'est que c'est un crime crapuleux, sale, d'une psychotique, hein, clairement, une cinglée. Et on a voulu monter en épingle la question de l'immigration. Je sais que vous êtes anti-raciste, c'est très bien pour vous. Mais il y a une réalité, c'est qu'on fait monter un épiphénomène qui serait passé à la trappe il y a encore 30, enfin, il y a 50 ans. Parce que ça fait partie des crimes crapuleux qu'on connaît.
Oui, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et il y a 50 ans, les crimes crapuleux existaient. Maintenant, j'ai envie de dire, malheureusement, il y a une récupération qui est politique, qui est malsaine de par le Front National et de par Reconquête. On le voit bien par l'appel au rassemblement, on voit bien les noms de domaines qui ont été déposés. Maintenant, c'est triste pour cet enfant, c'est triste pour la famille, c'est triste pour beaucoup de raisons que l'on connaît. C'est horrible et c'est triste. Mais allez focaliser parce que c'est une Algérienne et là, allez stigmatiser les Algériens et remettre en cause l'immigration. Alors oui, malheureusement, c'est vrai que l'immigration, elle peut être saine, elle peut être positive, mais il faut qu'elle soit aussi contrôlée. Il y a des problématiques qu'on ne doit pas laisser au Front National, qu'on a laissé faire. Et pourtant, je suis de gauche, qu'on a laissé au Front National. Voilà, c'est ça aussi. Donc, on paye un petit peu aussi ce qui s'est passé, ce qu'on a laissé faire depuis quelques années.
Faire, c'est que la propre sœur de cette fille l'avait foutu dehors, tellement elle était cinglée. C'est-à-dire que la question de la problématique qui s'est posée, c'est qu'apparemment, quand c'est un immigré, il est toujours sain d'esprit pour tuer les gens, alors qu'il y a des cinglés comme partout. Et quand c'est un Français de souche, entre guillemets, parce qu'on peut élargir la souche, les Émile Louis et autres criminels de grande ampleur, hein. Il en a parlé, était le professeur Magistre Sérosine. Quand c'est ces gens-là, par contre, là, on se tait un peu parce qu'on considère qu'ils sont psychiatriquement recevables. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à ces questions-là.
Psychiatriquement recevables ?
Non, oui, ils sont, parce que c'est des fous.
Oui, ils sont des fous, comme
cette femme et comme beaucoup.
Cette femme est complètement.
Parce que pour l'arriver à faire un truc pareil,
après,
ce que je veux dire, c'est que la question qui se pose, c'est la récupération politique dans un moment de crise.
Bien sûr.
Parce que cette récupération, il y a 30 ans, elle n'aurait pas le même poids qu'aujourd'hui, on est d'accord là-dessus.
Dans un moment de crise, mais bon, un moment de crise ou non. Non, mais là, dans un moment de deuil, dans la mesure où l'enfant n'est pas encore enterré, le corps n'est pas encore en terre, c'est là que c'est.
D'ailleurs, ce qui est marqué, c'est morbide. Sort cette photo de cette jeune fille.
Oui.
Qui l'a diffusée ? Moi, ça m'a marqué. Elle est sortie immédiatement dans les sites d'extrême droite, un F de Souche, pour ne citer que. C'est sorti toute. Bon, évidemment, la fille, elle était belle, elle était mignonne, elle était magnifique. Et on a cette photo d'un ange qui vient d'être tué. Je me demande qui a diffusé cette photo. C'est vraiment une question qui m'a interpellé quand même.
Écoutez, on va se renseigner. La grève, vous disiez que c'était plutôt un succès. Contrairement à Gamal Abina qui considère
un bon début.
Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? La question que je vous pose, moi, c'est pas tant de commenter la grève, ça y est, on l'a fait hier suffisamment. Mmh. C'est de se dire. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette grève ? Est-ce qu'il va y avoir une suite de cette grogne sociale ? Suite de grogne sociale avec qui ? Quiz, c'est-à-dire les syndicats d'un côté, le peuple de l'autre, et puis les politiques. Que va-t-il se passer, Thierry-Paul Vallès?
Déjà, j'ai envie de dire qu'avec les syndicats, ça risque d'être compliqué, parce qu'il y a déjà une raffinerie qui a repris le travail. L'info est tombée tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Alors qu'une autre raffinerie a reconduit la grève.
Oui. Jusqu'à demain.
Jusqu'à demain. Donc déjà, au niveau des syndicats, entre ces salariés-là, ces fissurés, ils sont déjà divisés. Mmh. Mais j'ai envie de dire que il faut aussi le souffle citoyen. Parce que la colère qui s'exprimait.
C'est quoi le souffle citoyen ?
Le souffle citoyen, c'est la colère. Voilà. La colère qui s'est exprimée pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Elle est toujours là. Elle est toujours réelle. Elle existe toujours. C'est pas lié aux syndicats, c'est pas lié aux politiques. Maintenant, c'est aussi à chacun de comprendre les enjeux et de se donner les moyens en se mobilisant. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas se mobiliser sur une journée, sur un week-end. Il faut se mobiliser dans la durée. Là, on a l'automne. Ça peut être, voilà, on a l'automne. Donc, dans la durée, on arrive le 17 novembre, il y aura l'anniversaire des Gilets jaunes. Bon, c'est une coïncidence. Mais voilà, moi, j'y crois. Pourquoi j'y crois ? Parce que on peut pas continuer comme ça dans un climat social aussi funeste et morbide, avec une inflation, avec 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec un sentiment d'insécurité profond, avec les extrêmes qui remontent, avec le 49-3 qui monte.
Vous écoutez parler, on dirait le chaos.
C'est le chaos. En tous les cas, cette actualité-là, elle est chaotique, elle est triste. Voilà. Oui, c'est le chaos social. D'un point de vue social, c'est le chaos. Maintenant, il y a beaucoup de choses positives, mais ces choses positives, c'est
pas... Vous qui avez été un des leaders des Gilets jaunes, est-ce que vous comptez revenir ? Est-ce que les Gilets jaunes comptent réinvestir le terrain ?
Les choses positives, il y en a, mais c'est pas ce qui va remplir le frigo ou de mettre à manger dans la gamelle, malheureusement. C'est ça aussi, faut, à un moment donné, faut du concret. Moi, je m'étais mis en retrait. Je me suis momentanément mis en retrait des raisons personnelles aussi, et j'attendais de voir comment allaient se mettre en place les choses. Force est de constater que non, il faut revenir. Il faut revenir dans le débat citoyen, il faut revenir dans les mobilisations, il faut revenir avec d'autres alternatives, parce qu'apparemment le gouvernement n'a pas su entendre et n'a pas compris et tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans.
Gamal Abina, vous partagez ? J'imagine que non.
Diviser.
C'est compliqué. C'est un faux débat, parce qu'il n'y a pas de débat, on est d'accord. Donc, dans les faits.
Content que vous soyez d'accord avec moi.
Oui, mais ce serait idiot. J'ai aussi la base populaire et je vois ce qui se passe.
Hein. Oui, et vous ne l'êtes pas.
Et comment ?
Et vous ne l'êtes pas.
D'où ?
Idiot.
Ah, c'est gentil. vous ressemblez à monsieur Virgin, on vous a déjà dit ça ?
Monsieur qui ?
Un milliardaire. Ah. Ça, c'est juste pour la petite blagounette. Plus sérieusement.
Un milliardaire anglais ?
Oui, anglais. Ça rentre, on l'imagine tous. Non, simplement pour dire quoi, effectivement, le contexte n'est pas très favorable.
C'est son fils spirituel.
Oui, Richard Branson, il y a peut-être quelque chose. Hein.
Oh, si vous voulez jouer aux airs et aux sosies, je vais être par contre un peu
je
plus...
Je prends avec plaisir.
Plus dramatique et cynique.
Pour
hein.
De mon côté, moi j'ai pas de problème.
Moi non plus de mon côté.
Non, je plaisantais.
Non, mais il plaisante, hein.
Je sais.
Ah, oui. C'est cool, ressemble à un milliardaire. Ça fait plaisir, il passe bien. Non, plus sérieusement, par rapport à ça, effectivement.
En plus, le milliardaire, il a une bonne gueule.
Oui, super beau gosse. Non, mais je trouve
beau gosse, le mec.
C'est le type qui est sympa, quoi. C'est un milliardaire sympa, c'est rare. Mais plus sérieusement, je veux dire, par rapport à ça, effectivement, la grogne sociale est montée, les contextes est catastrophique, 10 millions effectivement de pauvres. Les Gilets jaunes qui n'ont pas été entendus, il faut être très honnête, hein, ils n'ont pas été entendus.
Voilà. Il a raison, c'est vrai. Moi, j'ai entendu les auditeurs, ils partagent exactement le point de vue de Thierry Paul Vallès.
Il faut faire les bons constats sans faire parti pris, hein, je veux dire.
Il y a une chose qu'il faut comprendre, ce qui est un vrai là, parce qu'on parlait de l'Angleterre pour plaisanter, mais plus sérieusement, l'Angleterre ne manifeste jamais.
Non.
Depuis Thatcher.
On l'entend pas.
Et là, il manifeste.
Oui.
C'est-à-dire que si l'Angleterre manifeste, si les Allemands manifestent, avec en plus les drapeaux russes, hein, je vous rappelle, si les Italiens manifestent, c'est-à-dire que toute l'Europe commence à avoir marre de ce diktat de Mme von der Leyen, qui est une véritable dictature, parce qu'elle n'a pas été élue, je le rappelle aussi, eh bien ça va donner peut-être, et c'est là qu'il y a un risque réel, une convergence, non pas des luttes à l'intérieur de la France, où les Français sont réputés pour être des gens qui, quand ils s'énervent très très haut, hein, c'est pas à moitié, mais des luttes européenne, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une vraie convergence. On l'a vu avec Thierry Vincent que la naissance en Allemagne des Black Blocs a fait tache d'huile en France, et aujourd'hui les plus gros Black Blocs sont français. Et bien là c'est pareil, cette convergence pourrait arriver indépendamment des États. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est vrai, j'ai un mot d'ordre, je le répéterai à satiété, je n'accepte pas que dans cet État ultra-libéral qui compose avec des milliardaires qui n'ont rien à faire de la base populaire, qu'il n'y ait pas un rétablissement, comme De Gaulle de droite, je le rappelle, l'avait fait, du contrôle des prix. C'est inadmissible de laisser aux spéculateurs la possibilité de faire crever de faim des gens parce qu'ils ont décidé d'augmenter les prix artificiellement. On doit rétablir le contrôle des prix et on doit faire en sorte que les prix des loyers baissent. Voilà ce qu'on doit faire pour libérer
l'achat. Vous êtes d'accord? Non?
Bien évidemment.
Bien évidemment.
On a le droit bien sûr, bah oui, mais pleinement.
Pleinement, pleinement. On va parler de la pénurie du carburant, justement. Certains vivent encore, vous savez, cette situation de galère. Et ça devient très, très compliqué, notamment en Île-de-France. Pourquoi la situation, elle reste encore tendue dans certaines régions, justement l'Île-de-France? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les syndicats, alors que la majorité a voté, justement, l'arrêt du mouvement, eh bien, certains continuent de bloquer le pays, si j'ai envie de dire, si je peux utiliser cette expression Gamma Labina, ou Thierry Paul Valette, là, ou d'autres. Thierry Paul Valette.
Oui, bon, je vais répondre. Les syndicats, moi, je n'ai jamais fait confiance aux syndicats, personnellement. Voilà, moi, je suis citoyen, mon combat est citoyen, et mes engagements resteront citoyens. Le syndicalisme, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit peu autre chose. Maintenant, oui, alors, bloquer le pays, mais le pays n'est pas pour autant bloqué, quand même. Il est en partie bloqué. Il est en partie bloqué, il n'est pas pleinement bloqué. On n'est pas d'une grève générale, les transports en commun fonctionnent encore, l'accès aux services publics
sauf que beaucoup des stations en Île-de-France, eh bien, c'est la pénurie, c'est la rupture, de carburant. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a une responsabilité parce qu'il n'y a pas eu de réserve stratégique.
Ils n'ont pas utilisé, plutôt. Elles existent, mais ils n'ont pas utilisé.
Voilà, exactement. Elles ne sont pas mises au service du citoyen. Exactement, c'est une première chose. Et puis après, les gens, c'est comme pendant la crise du coronavirus, qui se ruaient sur les courses. Là, c'est pareil, ils se sont rués dans les stations-service. Bon, ça a accéléré, ça a boosté la pénurie. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, moi, ce qui m'embête quelque part, c'est que l'essence, elle a été, il y a un an, peut-être à 2 euros, 2,20 euros. Personne ne s'est mobilisé. Ils se sont mobilisés quand c'était leur propre salaire, pour eux. Bon, alors au début, moi je ne vais pas mentir, je me suis dit, ils se mobilisent pour eux, que pour eux. Merci. D'où je vais aller les soutenir alors qu'ils ne se sont pas mobilisés pour nous. Ça fait comme les routiers qu'on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Et eux, quand ils se mobilisent, nous on est là. C'est toujours un sens unique, c'est un peu chacun pour soi. Mais à un moment donné, il faut dépasser ça, il faut dépasser ces choses-là. Et moi je dépasserai toujours toutes ces choses. Sauf quand ça concernera les extrêmes et le Front National, je les dépasserai pas. Ça, c'est ma ligne rouge.
Donc, on a bien compris que vous ne soutenez pas les syndicalistes.
Non.
Non.
C'est son problème.
Bon, ben non, mais.
Non, je comprends très
c'est
bien.
C'est votre point.
C'est normal, ils sont disqualifiés tout seuls. Ils pèsent.
Voilà.
Gamma Labina.
Ensuite, c'est vrai que chacun pour sa peau, ça se voit un petit peu trop, je veux dire.
C'est flagrant.
Oui, mais par contre, oui, pourquoi? Il y a deux aspects par rapport à ce blocage qu'on appelle blocage aujourd'hui. C'est un blocage qui est à la fois initié par surtout la CGT, qui maintient d'ailleurs sa position de gréviste, mais surtout parce qu'il y a eu deux aspects convergents qui ont conduit à ça. On a tous une voiture, on a tous quelqu'un qui a une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord cette grève qui a commencé, des raffineries, mais ça n'explique pas qu'au bout de 2 semaines, il n'y ait plus d'essence. C'est qu'en plus, le gouvernement a trouvé une idée de génie. Il a dit, on va faire une prime de 30 centimes par litre.
C'est ça.
Donc tout le monde ne s'est pas précipité parce qu'il y avait la grève. Ils sont précipités pour la prime. Ce qui a expliqué que Total, par exemple, énergie, a été assez cher rapidement. Donc cette convergence à la fois d'une prime qui devait s'arrêter le 1er novembre, très fin, où il a essayé de courir jusqu'à la fin de l'année. Ils vous font une date limite très courte. Et en plus, cette grève qui a accéléré le processus, ça a séché les pompes. On n'aurait pas eu un mouvement aussi dur s'il n'y avait pas eu ça. Et deuxième aspect, effectivement, je suis d'accord sur un point. Ça va 5 minutes que chacun se batte pour sa petite casemate. Moi, je pense aux vrais chômeurs qui ne se battront plus parce qu'ils sont désespérés. Je pense à ces femmes seules avec leurs enfants qui ne sortiront pas parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Je pense
les précaires aussi
les SDF. On peut rajouter.
Exactement.
Tous ces gens-là n'ont pas voix à la parole parce qu'ils sont complètement psychologiquement écrasés. Mmh. Et ça, les syndicalistes, manifestement, ils sont fiche comme de l'an 40. Moi, j'en veux parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Et j'ai envie de dire, pour prendre l'exemple concret d'un mouvement que je n'ai pas aimé, mais en tous les cas de figure, il était intéressant sur un plan sociologique, mai 68. Pourquoi ça a fonctionné? C'est parce que ça a commencé par la base étudiantine, qui n'était pas une grosse base, hein. Nanterre, la Sorbonne, et ensuite, c'est agrégé à elle les syndicats. Et là, il y a une convergence des syndicats puis des politiques, et ça s'est monté en force grâce à ça. Eh bien, ça n'existe pas aujourd'hui parce que les syndicalistes travaillent pour leur petite tambouille.
C'est du corporatisme.
Totalement.
Surtout que là, en ce moment, il y a bientôt les élections.
Par rapport à un exemple très concret pour la manifestation dont on a parlé, que je considère comme un échec. Pourquoi un échec? Parce que les syndicalistes n'étaient pas là. S'ils voulaient vraiment qu'il y ait une vie moins chère, ils seraient venus renforcer les troupes. Ils ne le font pas parce que chacun travaille pour sa tambouille. Donc là, il y a un problème. Moi, je pense que les syndicalistes sont disqualifiés. Et là, pour les Gilets jaunes, je rends hommage à ce mouvement qui est un mouvement. Malheureusement, il y a eu des leaders qui ont émergé, mais il n'y avait pas de structuration réelle. Donc ça les a littéralement atomisés parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre sur un plan juridique. Je veux dire. Eh bien, ils ont eu ce courage de sortir et de dire, il y en a marre de cette hypercentralisation des pouvoirs et de la richesse à Paris. C'est ça la question qui s'est posée en substance. Et le fait qu'on nous oublie et qu'on va commencer à se paupériser. Ils ont anticipé, il y a 4 ans, un mouvement qui arrive aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé.
Augmentation trop faible ou pas assez, l'augmentation salariale justement.
Mais c'est le problème, pas augmentation.
C'est ce que dit la CGT.
Prix. Si on augmente les salaires, il y a une mécanisme qui s'appelle l'inflation par les prix, après par les salaires, puis après par les prix. Ça va plus s'arrêter. On va se retrouver comme dans les années 80, on faisait des augmentations de salaires qui répondaient à des prix. Il faut éviter, il faut contrôler les prix, stopper l'augmentation des prix pour que les pauvres qui ne travaillent pas, parce que tout le monde n'a pas de salaire, puissent se nourrir normalement. Là, pour l'instant, ceux des pompes à essence, ils sont à peu près à un salaire de 2000 euros en moyenne par mois. Ils veulent 10% de plus, ça fait 200 euros de plus. Et bien, les gens qui vivent à 400 euros. Moi, je trouve qu'il y a un problème là-dessus.
Mmh. Il y a un problème. Oui.
Il y a un déséquilibre, en effet.
Mais la hausse des salaires, vous dites quoi, vous ?
La hausse des salaires, mais les salaires n'augmentent plus. L'inflation augmente, les prix augmentent, ça fait plusieurs années. La vie est chère, la vie est difficile. Maintenant, on nous explique qu'il y a l'Ukraine, il y a le conflit en Ukraine. Alors forcément, ça a un impact. Ça a un impact dans notre quotidien, sur le prix du café, sur le prix du papier toilette, etc. Mais sauf que ce discours-là, on ne peut plus l'entendre. Les gens n'ont plus envie de l'entendre. Les gens sont trop dans la précarité pour ça. Ils ont été manipulés, ils sont déçus. Et puis aussi, ça ne correspond pas non plus à la réalité. La guerre en Ukraine ne justifie pas, elle n'explique pas toute cette situation qu'il y a aujourd'hui en France. C'est une réalité.
Eh bien, messieurs, nous allons marquer la dernière pause, justement. On me dit, oh, j'ai encore quelques minutes. Ça va, j'ai encore quelques minutes. Allez, on va parler de ce dernier sujet qui a retenu notre attention. Vous savez, la guerre en Irak, vous l'avez souvent commenté, vous, Gamal Abina. Eh oui. Et la guerre en Irak, il y a tout un arsenal iranien désormais qui est à la disposition de qui ? Eh bien, des Russes. Et ça, eh bien, ça commence à faire grincer les dents, notamment Washington. C'est grandissant. On parle de drones, on parle de missiles, évidemment. Et Téhéran a décidé, évidemment, de s'associer à cette guerre en Ukraine. Là, ça devient géopolitique.
L'Iran qui a l'arme nucléaire.
Non, oui. Non, du tout. L'Iran n'a pas l'arme nucléaire.
Ah, l'Iran, si. L'Iran a l'arme nucléaire.
Oui, pas du tout.
Ah si, ils l'ont.
Ah, si, non, ils l'ont. Non,
non. Mais parce que c'est pas officiel.
Mais non, ils l'ont.
Officiellement, ils l'ont pas, mais
ils l'ont. Ils ont la capacité nucléaire civile, c'est vrai. Oui. Ils n'ont pas la nucléaire pour une raison. Il y a une raison réelle.
Moi, pour moi, c'est pas officiel, mais ils l'ont.
Non, ils l'ont pas, c'est sûr. Ils l'ont pas parce que le Khomeini a décrété que c'était une arme du diable et qu'il n'en voulait pas. Il faut voir l'image qu'a Khomeini en Iran. C'est-à-dire que personne touche à une de ses fatwas. L'affaire Rushdie, on en parle. Non, ils n'ont pas l'arme nucléaire. Par contre, ils ont des capacités offensives assez extraordinaires.
Oui, ils ont les capacités nucléaires.
Non, pas nucléaires. Si, bien uniquement. Bon. Ils ont la centrale de Boucher, ils ont des capacités. Ils sont au seuil, on va dire, ils n'ont pas.
Le jour en tous les cas, il est vrai qu'on est d'une stratégie. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Dupuis était assis à cette pièce-là, parce que c'est lui qui est expert sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'on est maintenant, on s'oriente vers une géopolitique stratégique de guerre. Et le fait que.
Bah, l'Iran s'invite désormais.
L'Iran qui s'invite désormais aussi. Il faut savoir que l'Iran est en conflit avec Israël. Que Israël, maintenant, on voit. L'Ukraine qui demande aussi l'aide à Israël avec des missiles de défense contre les drones qui ont été fournis par l'armée, par l'Iran. Voilà, exactement. Alors maintenant, il ne faudrait pas que ce conflit s'enflamme et qu'on vienne régler des comptes entre l'Iran et Israël qui sont en place depuis que Khomeini est au pouvoir et qu'a déclaré le territoire d'Israël.
On continue d'en parler dans une poignée de minutes. Genre, juste la pause, la dernière pause, et on se retrouve pour la dernière ligne droite, justement. La guerre en Ukraine et l'Iran. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Gamal Abina, mais également aussi avec Thierry-Paul Valette. 19h20 précisément, si vous venez de nous rejoindre, dernière ligne droite, avant de retrouver Bilan Edman et toute son équipe, la Team Time Sport. Dites-moi, Thierry-Paul Valette, vous étiez sur place, me semble-t-il, à la frontière. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience, justement ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Quel échange avez-vous eu ?
J'étais précisément à Médica, je suis resté quelques semaines là-bas. Moi, ce qui m'a vraiment profondément marqué, c'est que finalement, dans cette guerre, dans ce conflit qui est sale, peu importe qui, quoi, pourquoi, comment, Russie, Ukraine, etc., c'est de voir ces femmes, ces enfants à 2, 3, 4 heures du matin, dans des flots incessants qui traversaient la frontière, qui étaient en pleurs, qui avaient perdu un mari, qui ne savaient pas s'ils allaient revenir, etc., etc. Ça, c'est des images qui m'ont profondément marqué. Et puis, malheureusement aussi, dans des situations de guerre conflictuelle, comme c'est tristement souvent le cas, il y a la prostitution, on enlève des femmes, on enlève les enfants. Donc moi, je me suis aussi affairé à aider à sécuriser le camp pour lutter contre le prosélytisme parce qu'on n'en parle pas suffisamment, parce que c'est une réalité et parce que maintenant, bref, les clients qui vont aller voir les prostituées, c'est au boulevard parisien sur les maréchaux, faut qu'ils se disent qu'il y a de grandes chances que voilà, les filles elles viennent aussi d'Ukraine. Ça, c'est une réalité. C'est voilà, moi c'est des gens qui ont rien demandé, c'est des gens qui souhaitent vivre en paix chez eux, comme nous on a envie de vivre en paix. L'Ukraine, c'est
vous êtes reparti avec des contacts, vous avez filmé, vous avez.
J'ai filmé là-bas, j'ai fait des lives, j'ai témoigné comme j'ai pu.
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
C'est la détresse. La misère, la détresse, le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir et le décalage qu'il y a avec les informations, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, c'est terrible. C'est ça qui est terrible. Et finalement, ça se joue aux portes de l'Europe. C'est l'Europe. C'est chez nous. Ça aurait pu être nous demain. C'est pas comme si c'était à l'autre bout du monde, comme si on était habitué, etc. Là, c'est ça qui était quand même assez marquant. Et puis l'Ukraine, faut savoir qu'au début des années 2000, il y a eu la révolution orange. Des citoyens aussi qui se sont mobilisés, soulevés. On a été les Gilets jaunes, là, souvent, parfois fait référence aussi au peuple ukrainien. Donc, bon, déjà, je me sentais concerné par rapport à ça.
Gamal Abina, l'Iran.
Alors, ce qui est amusant, c'est de voir qu'on
met... Riche expérience, hein.
Oui, très belle expérience. Difficile expérience, mais intéressante en termes de témoignage. Mmh. Je remercie d'ailleurs pour ce témoignage qui est humain, en réalité. Il faut quand même oublier qu'on oublie toujours qu'il y a des êtres humains qui prennent des bombes en dessous. Mais non, sur la question
iranienne. Alors, sur la question géopolitique, l'Iran qui s'invite dans cette guerre avec la Russie.
Tout le monde va y aller, tout le monde y a déjà été. Tout le monde alimente en armes l'Ukraine, que ce soit l'Occident ou l'Orient. Il y a un axe qui s'est redessiné, c'est un axe géopolitique, donc Est-Ouest, le retour de la guerre froide, avec l'alliance extraordinaire entre la Chine et la Russie qui font bloc contre les États-Unis. Les États-Unis qui manœuvrent très bien et qui sont en train de sécher l'Europe, c'est l'Europe qui va être la grande perdante. Mais surtout, et c'est important, cette hypocrisie qui consiste à dire que l'Iran donne des drones. D'abord, les drones iraniens ne sont pas de top qualité, c'est des drones suicides. Donc on n'est pas sur les drones Baïtar des Russes, du neveu d'Erdogan, du beau-fils d'Erdogan, eux sont extrêmement puissants et alimentent les forces armées ukrainiennes. C'est ces drones qui ont sauvé l'Ukraine sur les premiers jours du combat. Donc ce qui fait que l'Ukraine n'a pas été entièrement été balayée, c'est grâce aux drones turcs. Donc les drones turcs qui sont vendus partout en Afrique, on l'a vu en Éthiopie. Il faut comprendre que cette hypocrisie qui veut mettre la focale sur l'Iran, comme si l'Iran était encore un pays du diable, le fameux axe of evil de Bush, et qui serait proche de la Russie, on se demande comment ils ont fait pour être proches, mais c'est un vrai miracle, parce qu'à l'époque ils se détestaient, contre les États-Unis, c'est vraiment que le théâtre d'opération n'est pas en Ukraine, en vérité.
Donc ça veut dire quoi, l'Iran n'est pas doté de...
Si, ils ont des drones, il n'y a pas de drones. C'est une grande puissance industrielle, l'Iran, maintenant,
Oui,
plus
sur un petit
pays. Ils alimentent, et ils vendent d'ailleurs, il faut être très clair, c'est vendu, ils vendent les drones aux Russes, qui les utilisent à satiété parce que les Russes ont rencontré quelques difficultés sur le terrain à cause de la contre-offensive. Maintenant, ce qui me fait peur, parce que au-delà même de cet épiphénomène des drones iraniens, c'est pas pire que les canons César français, que les missiles américains, que les Anglais qui envoient, les Allemands, tout le monde envoie sa dose, juste pour tuer des populations civiles, je rappelle, hein. Parce qu'en Ukraine, c'est quasiment une guerre civile qu'on a aujourd'hui avec des pays qui alimentent. C'est pire que la guerre d'Espagne au demeurant. Mais ce qui se passe, moi, ce qui me fait peur, c'est pas ça. Ce qui me fait peur, bon, je parle pas le baratin nucléaire, ça c'est du pipeau. Ce qui me fait peur, c'est de se dire, mais est-ce que les gens se rendent compte qu'on doit un jour discuter avec Poutine pour amener la paix. Mmh. Si on fait de la surenchère comme ça de haine, il n'y aura pas de paix. Mmh. Or, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Parce que Poutine, quoi qu'on en dise, il n'est pas seul, il y a un état-major, il est incontournable en Europe. Donc, si on ne trouve pas...
Il a des alliés.
Comment ?
Il a des alliés, il faudra bien un jour arriver à la table des négociations.
Absolument.
Moi, je ne soutiens pas Emmanuel Macron, mais enfin, pour le peu, c'est normal qu'il faut garder le contact quelque
tout
part.
Tout à fait d'accord, alors on est d'accord là-dessus.
Ça,
Macron a beaucoup de défauts, mais il a essayé de garder un fil ouvert.
Voilà. Ça, pour ça, oui.
Et là-dessus, on peut lui donner au moins ce crédit. Après, moi, j'en veux encore une fois à von der Leyen, qui n'est pas élue, qui nous met en risque. C'est elle qu'il faut interroger. Au nom de quoi cette femme qui s'est tout autorisée avec le Covid, elle fait beaucoup de choses, continue à alimenter la guerre. Je trouve que c'est une folie. Aujourd'hui, on alimente de façon incessante en armes un pays qui devrait aller sur la table des négociations. La guerre n'est pas gagnable en Ukraine. Les Russes ne lâcheront jamais ce qu'ils ont conquis. Donc, c'est vrai, la question qui se pose, c'est pourquoi on parle de l'Iran, c'est un détournement d'attention. Dans les faits, l'Amérique veut justifier l'augmentation farmineuse. Ils ont donné 175 milliards de plus d'armement aux Ukrainiens. Pourquoi ? Juste pour s'amuser. Ils font un énorme jeu d'échecs et cette bataille géopolitique qui est en train de se dessiner est en train de découper le monde en deux parties. 20% occidental et 80% du monde contre l'Occident. Voilà ce qu'on a obtenu à cause de cette guerre.
À cause de cette guerre. Est-ce que c'est aussi la faiblesse, l'Iran évidemment qui s'associe à la Russie, c'est aussi une des faiblesses de Poutine, Thierry Paul Valette ?
C'est une faiblesse.
On dit souvent qu'il n'a pas gagné la guerre.
J'ai envie de dire, il l'a ni gagné, il l'a ni perdu. Enfin, je veux dire, c'est une guerre où il y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. Finalement, il n'y aura que des victimes et des victimes civiles. Voilà. Et avec un monde qui se restructure et qui s'oriente différemment d'un point de vue de la géopolitique, on le voit bien. Bon, c'est vrai que je suis allé vérifier. L'Iran a la capacité d'un armement nucléaire, mais n'a pas officiellement l'arme nucléaire. C'est vrai que c'était une erreur de ma part tout à l'heure. Mais en tous les cas, vouloir faire passer et stigmatiser Poutine pour quelqu'un de fou, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, ça c'est une erreur magistrale, parce que Poutine, ça fait des années qu'il est comme ça, qu'il agit comme ça. On l'a vu avec
le Karabakh, on l'a vu avec l'Ossétie du Nord, on l'a vu intervenir plusieurs fois, on l'a vu en Syrie,
c'est
évidemment.
Pas la première fois.
On l'a vu même au Kazakhstan récemment.
C'est une triste suite logique, malheureusement.
Poutine.
On ne peut pas les retirer une chose. Poutine annonce toujours ce qu'il va faire. La veille de cette guerre.
Il a souvent menti.
Non, il n'a jamais menti, il a toujours annoncé. Eh ben, pour l'instant, c'est les gens qui n'écoutent pas. Hein. Poutine, la veille, il a dit, moi, je reconnais les républiques indépendantes. Son chef d'état-major militaire est en panique. Moi, j'ai compris qu'il prépare la guerre. C'était évident. Après, Poutine a annoncé qu'il allait intervenir en Syrie. Il l'a fait. Au Karabakh, il l'a fait. Du côté de l'Ossétie, du Nord et du Sud, c'est bon, il a plié le morceau. Alors, quand ça arrange l'Occident sur le Karabakh, puisqu'il soutient l'Arménie, on dit rien. Parce que du côté des Arméniens, ils sont gentils. Par contre, quand ça ne les arrange pas, et contre les Turcs en plus. Hein.
Qu'est-ce que vous répondez justement à Poutine qui ordonne la loi martiale dans les territoires annexés en Ukraine ? Ça se traduit quoi, ça ?
Malheureusement, ça se traduit par des restrictions de liberté, par des craintes d'emprisonnement massif. C'est logique, hein, parce qu'il a peur. Il y a eu des attentats. C'est pourquoi il fait ça. Il y a eu des attentats. Les Ukrainiens qui sont en difficulté, je parle des opposants à Poutine en difficulté, utilisent l'arme du terrorisme. C'est normal. Quand on n'a plus les capacités militaires, on ne va pas au terrorisme. De ce côté-ci, il va le faire et il ira jusqu'au bout. Mais le problème aujourd'hui qui m'intéresse, c'est quand est-ce.
Ça y est, il a dégainé la loi.
C'est logique. Lui, il répond au terrorisme par la violence. Il l'a toujours fait. Rappelez-vous Beslan, quand même. Ils
sont, mais qu'est-ce qu'elle implique, cette loi ? Elle implique quoi, cette loi ?
Ça va être limitation des sorties à partir de 19h, et puis après, contrôle inopiné aléatoire.
Ouais, contrôle des libertés individuelles, ouais. Contrôle de la population, politique de la terreur.
C'est une loi militaire, quoi. Martial, comme on l'a dit, ça veut dire que c'est l'armée qui dirige.
Merci, monsieur. Merci à vous, Gamal Amina. C'est un plaisir.
Partagez largement.
Merci également à Thierry-Paul Valette.
Bah, merci.
Quel plaisir.
Ah oui, oui. Merci en tous les cas, Adil.
Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Oui, merci. Super.
Partagez. Merci encore.
C'est gentil.
Merci à la Réal, évidemment, Salam, qui était avec nous. Et puis, vous, nombreux, de plus en plus d'ailleurs. Je vous en remercie infiniment. Au 01 53 48 3000. Milan Nedman, il va bien, donc d'une poignée de minutes, il prend le contrôle avec Time Sport et toute son équipe de 20h à 21h et ensuite Vanessa à 21h. Moi, quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais d'ici là, vous le savez, c'est toujours. Hein,
on lâche rien.
On lâche rien.
Ciao. Exactement.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.